Wikipédia, Jean II de France. Anonyme vers 1350, portrait de Jean II le Bon, musée du Louvre. Dynastie Valois directe. Naissance 26 avril 1319. Château du Guet de Molny, Le Mans. Décès 8 avril 1364. Londres, pays. Titre roi de France. 1350-1364. Grade militaire. Parme. Service de début de carrière à fin de carrière. Couronnement 26 septembre 1350. En la cathédrale de Reims. Sacre sacre. Investiture. Prédécesseur Philippe VI. Successeur Charles V. Conflit. Commandement. Fait d'armes. Distinction. Hommage. Autre fonction. Enfant de Philippe VI. Aide. Jeanne de Bourgogne. Conjoint bonne de Luxembourg. Puis. Jeanne d'Auvergne, 1326-1360. Enfant. Avec bonne de Luxembourg. Blanche, 1336-1336. Charles V, 1337-1380. Catherine, 1338-1338. Louis, 1339-1384. Jean, 1340-1416. Philippe, 1342-1404. Jeanne, 1343-1373. Marie, 1344-1404. Agnès, 1345-1349. Marguerite, 1347-1352. Isabelle, 1348-1372. Avec Jeanne d'Auvergne. Blanche, 1350-1350. Catherine, 1352-1352. Un fils, 1354-1354. Jean II de France, dit Jean le Bon, né le 26 avril 1319 au château du Guet de Molny, Le Mans, mort à Londres le 8 avril 1364, fils du roi Philippe VI et de son épouse Jeanne de Bourgogne, fut roi de France de 1350 à 1364, second souverain issu de la maison capétienne de Valois. Il est sacré roi de France le 26 septembre 1350. Le règne de Jean II le Bon est marqué par la défiance du pays envers les Valois choisis à la mort de Charles IV, pour éviter qu'Édouard III, le plus proche descendant de Philippe, le Bel prenne possession du royaume de France. La nouvelle dynastie, confrontée à la crise de la féodalité, aux cinglantes défaites du début de la guerre de Cent Ans et à la Grande Peste, perd rapidement beaucoup de crédit. D'autant plus, dans l'incapacité à faire rentrer les impôts, elle recourt à des mutations monétaires pour renflouer le trésor. Ces manipulations entraînent des dévaluations, qui sont extrêmement impopulaires. Jean le Bon, confronté aux intrigues de Charles le Mauvais, roi de Navarre et prétendant le plus direct à la couronne, gouverne dans le secret entouré d'hommes de confiance. Profitant de tous ces troubles, et sûr de la supériorité tactique conférée par l'Arclon, les Anglais, menés par Édouard III et son fils le Prince Noir, relancent la guerre en 1355. Le 19 septembre 1356, Jean le Bon est battu et fait prisonnier à la bataille de Poitiers, malgré la restructuration de l'armée qu'il a menée. Le pays sombre alors dans le chaos. Les états généraux menés par Étienne Marcel et Robert Le Coq prennent le pouvoir à Paris, et tentent d'installer Charles de Navarre à la tête d'une monarchie contrôlée. En 1358, les campagnes se soulèvent et s'allient avec Étienne Marcel, mais le dauphin, le futur Charles V, se fait nommer régent et retourne la situation. Jean le Bon peut regagner la France en 1360, après la signature du traité de Brétigny qui lui rend la liberté, mais cède un tiers du pays à Édouard III. Son retour est difficile. Il faut payer son énorme rançon, et les finances du pays sont au plus bas. Il stabilise la monnaie grâce à la création du franc, mais les compagnies pillent les compagnies et bloquent le commerce. Ils tentent de mettre fin à leurs agissements, mais l'armée royale est vaincue à Brignais. Ils tentent ensuite d'en débarrasser le pays en les menant en croisade contre les Turcs avec l'argent du pape. Il essuie un nouvel échec, Innocent VI mourant 15 jours avant son arrivée à Avignon, et étant remplacé par le peu dispendieux Urbain V. Un de ses fils retenu en otage pour garantir le paiement de sa rançon, s'enfuit en 1363. Jean le Bon, obéissant aux lois de l'honneur, retourne se constituer prisonnier à Londres où il meurt en 1364. Personnalité modifiée. Jean le Bon est de santé fragile, 2. Il a peu d'activité physique, joue peu mais pratique la chasse, 2. Il est d'une personnalité sensible, et laisse facilement cours à son émotivité, jusqu'à devenir violent, ce qui lui vaut quelques déboires diplomatiques, 2. Il aime les livres, protège peintre et musicien, 3. Son image de roi chevalier, provient de sa conduite héroïque à la bataille de Poitiers, de la création de l'ordre de l'étoile, ou encore de la création du franc. Il figure en armure et à cheval brandissant une épée, toute guidée par la nécessité politique, chez un roi devant avant tout prouver la légitimité de sa couronne. Le règne de Jean le Bon est en effet marqué, comme celui de son père, par la contestation de la légitimité des Valois par Charles de Navarre et par Édouard III. Il doit lutter dès son plus jeune âge, il est duc de Normandie à 13 ans, contre les forces centrifuges qui affectent les villes et la noblesse, attirées par l'influence économique anglaise ou le parti réformateur. Il évolue dans un contexte d'intrigue et de trahison, et il est logique qu'il soit lui-même méfiant, et gouverne dans le secret avec un cercle très fermé de familiers. C'est aussi pour cette raison que les premiers Valois ont cherché à donner un tour fastueux aux cérémonies, cela va avec la conception médiévale de la haine, noblesse. Cependant, les temps ont changé et les contribuables voient d'un mauvais œil ces dépenses somptuaires. Biographie modifiée. Premier héritier d'une nouvelle dynastie modifiée. Jean de Valois, né au château de Guédemoni près du Mans, le 26 avril 1319. Il est le fils de Philippe de Valois, le cousin du roi Charles IV le Bel, et de sa première femme, Jeanne de Bourgogne. Royaume de France en 1328. Possession de Charles de Navarre. États pontificaux. Territoire contrôlé par Édouard III. Zone d'influence économique anglaise. Zone d'influence culturelle française. Royaume de France en 1328. Son père Philippe VI monte sur le trône de France en 1328. Sa légitimité ne va pas de soi. Elle découle d'un choix politique, fait à la mort de Louis X Lutin en 1316 puis à celle de Charles IV en 1328, afin d'éviter que la couronne n'échoie à un étranger. Édouard III, pourtant petit-fils de Philippe le Bel, est ainsi évincé au profit du neveu de ce dernier. Le nouveau roi doit donc impérativement asseoir la légitimité de sa dynastie. À son avènement, au printemps 1328, Jean est son seul fils vivant. Il est alors âgé de 9 ans. En 1332, des Charles de Navarre, prétendant plus direct qu'Édouard III à la couronne de France. Philippe VI décide donc de marier rapidement son fils, alors âgé de 13 ans, pour nouer l'alliance matrimoniale la plus prestigieuse possible, et de lui confier un appanage, la Normandie. Il envisage un temps de l'unir à Elinor, sœur du roi d'Angleterre. Depuis Saint-Louis, la modernisation du système juridique attire dans la sphère culturelle française de nombreuses régions limitrophes. En particulier en terre d'Empire, les villes du Dauphiné ou du comté de Bourgogne, futur Franche-Comté, recourent depuis Saint-Louis à la justice royale pour régler des litiges. Le roi envoie par exemple le bailli de Mâcon, qui intervient à Lyon pour régler des différends, comme le sénéchal de Beaucaire intervient à Viviers ou à Valence. 4. Ainsi, la cour du roi Philippe VI est largement cosmopolite, beaucoup de seigneurs tels le connétable de Brienne, ont des possessions à cheval sur plusieurs royaumes. Les rois de France élargissent l'influence culturelle du royaume en attirant à leur cour la noblesse de ces régions en lui allouant des rentes, et en se livrant à une habile politique matrimoniale. Ainsi, les comtes de Savoie prêtent hommage au roi de France contre l'octroi de pension. Jean de Luxembourg, dit l'aveugle, roi de Bohême, est donc un habitué de la cour de France. Tout comme son fils Venceslas, le futur empereur Charles IV. 5. Philippe VI l'invite à Fontainebleau pour lui proposer un traité d'alliance, qui serait cimenté par le mariage d'une de ses filles avec le futur Jean le Bon. Le roi de Bohême, qui a dévisé sur la Lombardie, et a besoin du soutien diplomatique français, accepte cet accord. Les clauses militaires du traité de Fontainebleau stipulent qu'en cas de guerre, le roi de Bohême se joindrait à l'armée du roi de France avec 400 hommes d'armes, si le conflit se déroule en Champagne ou dans l'Amiénois, avec 300 hommes, si le théâtre des opérations est plus éloigné. Les clauses politiques prévoient que la couronne lombarde ne serait pas contestée au roi de Bohême, s'il parvient à la conquérir, et que s'il peut disposer du royaume d'Arles, celui-ci reviendrait à la France. Par ailleurs, le traité entérine le statu quo concernant les avancées françaises en terre d'Empire. Le choix est laissé au roi de France entre les deux filles du roi de Bohême. Il choisit Bonne comme épouse pour son fils, car elle est en âge de procréer, elle a 16 ans et sa sœur a 9. La dot est fixée à 120 000 florins. Mariage avec Bonne de Luxembourg modifié. Jean est déclaré majeur et émancipé par son père, le 26 avril 1332. Il reçoit en apanage le duché de Normandie, ainsi que les comtés d'Anjou et du Maine. Les noces sont célébrées le 28 juillet à l'église de Notre-Dame de Melun en présence de 6 000 invités. Les festivités se prolongent deux mois plus tard, par l'adoubement du jeune marié, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le duc Jean de Normandie est solennellement armé chevalier devant une assistance prestigieuse réunissant les rois de Luxembourg et de Navarre, les ducs de Bourgogne, de Lorraine et de Brabant. Duc de Normandie modifié. Rebelle normand modifié. En 1332, Jean le Bon reçoit la Normandie en apanage, et doit constater qu'une grande partie de la noblesse normande est attirée par le camp anglais. En effet, économiquement la Normandie dépend des échanges maritimes à travers la Manche, autant que des échanges par le transport fluvial sur la Seine. Le duché n'est plus anglais depuis 150 ans mais nombre de propriétaires fonciers ont des possessions de part et d'autre de la Manche. 6. Dès lors, se ranger derrière l'un ou l'autre souverain entraînerait confiscation d'une partie des terres. C'est pourquoi la noblesse normande se regroupe en clans solidaires, qui lui permettent de pouvoir faire front, c'est ainsi qu'elle a pu obtenir et maintenir des chartes garantissant au duché une grande autonomie. Raoul de Brienne est une figure significative, il mène une politique étrangère indépendante, et s'il commande l'armée française envoyée en Écosse en 1335 c'est en tant que capitaine général engagé par contrat, et non comme l'obligé du roi. La noblesse normande est divise. Deux accents aigus en deux parties de longue date, les comtes de Tancarville et d'Harcourt, se livrant à une guerre sans merci depuis plusieurs générations, 7. Leur rivalité est relancée quand, en 1341, les Tancarville, forts du soutien royal, soufflent une riche héritière promise à Geoffroy d'Harcourt. Le roi, soucieux d'éviter que la plus riche région du royaume soit mise à feu et à sang, donne l'ordre aux baillis de Bayeux et du Cotentin d'empêcher cette guerre, 8. Geoffroy d'Harcourt lève les armes contre le roi, ralliant une bonne partie d'une noblesse normande, jalouse de son autonomie et qui voit d'un mauvais œil, l'immixtion du roi dans les affaires normandes. Les rebelles souhaitent voir leur chef Geoffroy d'Harcourt devenir duc de Normandie, ce qui garantirait la large autonomie octroyée par les chartes, 9. Son château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, est occupé par les troupes royales, et Geoffroy d'Harcourt doit quitter le Cotentin pour rejoindre le Brabant, pays de sa mère. Trois de ses compagnons sont décapités à Pariel. Le 3 avril 1344, et leur tête envoyée à Saint-Malo accent circonflexe pour y être exposée sur une roue en plein marché, 9. En Brabant, le rebelle constate que les Flamands menés par Jacob van Artevelde, ont pu reconnaître comme roi Édouard III, qui a fait valoir ses droits à la couronne de France lors de la déclaration de guerre, 10. Début 1345, il franchit le pas et se rend en Angleterre où Édouard III le prend sous sa protection. L'hommage éventuel des seigneurs normands à Édouard III, constitue une menace majeure pour la légitimité des Valois. Le désastre de Crécy et la reddition de Calais, ont fait effondrer tout leur prestige. Ils doivent lutter contre les nombreuses défections, qui risquent d'affecter la noblesse des façades nord et ouest du royaume, dont les terres sont dans la sphère d'influence économique de l'Angleterre. Dès lors les Valois décident de traiter. Le duc Jean rencontre Geoffroy d'Harcourt, auquel le roi rend tous ses biens. Il le nomme même capitaine souverain en Normandie, 9. Il est dès lors logique que Jean, se rapproche des Tancarville qui représentent le clan loyaliste pour pouvoir assurer son autorité sur l'anneau. Normandie. Or, le vicomte Jean de Melun a épousé Jeanne, la seule héritière du comté de Tancarville, 11. Par la suite ce sont les Melun-Tancarville, qui forment l'ossature du parti de Jean le Bon, alors que Godefroy de Harcourt, est le défenseur historique des libertés normandes, et donc du parti réformateur. Le rapprochement entre ce dernier et Charles de Navarre, qui se pose en champion des réformateurs, devient donc logique, 9. Chef de guerre modifié. Jean, duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine et de Poitiers, seigneur des conquêtes de Languedoc et de Saintonge, n'est pas très puissant. Ce sont les officiers du roi, qui administrent la plupart de ses possessions. Par contre, il participe aux diverses campagnes militaires de l'époque. Il combat contre les Anglais en Hainaut en 1340, en Bretagne en 1341-42 et en Guyane en 1346-12. Le 7 septembre 1341, Philippe VI choisit Charles de Blois pour la succession de Bretagne, 13. L'autre prétendant Jean de Montfort, avait pris possession de toutes les places fortes du duché au printemps, et il avait donné l'hommage lige à Édouard III sachant que le roi de France ne l'accepterait pas, 14. Jean le Bon réunit une forte armée renforcée de mercenaires génois, et pénètre en Bretagne fin 1341. Il enlève la forteresse de Chantesseaux, qui sur la rive gauche de la Loire, verrouille l'accès de Nantes. Après 2 semaines de siège, il prend Nantes et capture Jean de Montfort, 15. Lévy ne tarde pas à reconnaître Charles de Blois. Avec l'hiver le duc de Normandie, achève la campagne sans avoir annihilé les derniers montfortistes, pensant avoir réglé l'affaire en s'assurant de la personne de Jean de Montfort, il rentre à Paris. Au contraire, Jeanne de Flandre, épouse de Jean de Montfort, ranime la flamme de la résistance, et rallie ses partisans à Vannes, le conflit nullement réglé va se prolonger 23 ans et permet aux Anglais de prendre pied durablement en Bretagne. Édouard III débarque à Brest en 1342, alors que l'armée française l'attend à Calais. Il assiège Vannes et une armée menée toujours par le duc de Normandie entre en Bretagne. Mais Jean de Montfort étant prisonnier, et Jeanne de Flandre ayant sombré dans la folie, une trêve est signée le 19 janvier 1343, 16. De fait, les Anglais occupés administrent les places fortes encore fidèles à Jean de Montfort. Une large garnison anglaise occupe Brest et Vannes est administrée par le pape. Au printemps 1346, à la tête de 8000 à 10000 hommes, il se rend en Guyenne pour tenter de reprendre le terrain perdu lors d'une offensive anglaise en 1345. Bergerac, Aiguillon, La Réole et Angoulême ont été prises, 17. Il reprend Angoulême et met le siège devant Aiguillon, qui occupe une position stratégique au confluent de la Garonne et du Lot, 17. Mais la place est bien fortifiée, et il est tenu en échec par la garnison. Il s'entête à vouloir prendre la place pendant 4 mois, pendant qu'Henri de Gros-Mont comte de Derby à la tête de l'armée anglaise prend du terrain. En effet, l'Aquitaine lassée par les impôts royaux se tourne vers les Gascons. Des évêques passent ouvertement dans le camp des Douars 3, et Dom ouvre ses portes à Derby, 17. Après le désastre de Crécy, il faut trouver des boucs émissaires. Jean, à qui on reproche d'avoir immobilisé l'armée royale devant Aiguillon, 18, et son oncle le duc de Bourgogne tombe en disgrâce, comme les banquiers chargés par le roi des manipulations monétaires nécessaires à l'entretien des finances royales, 19. En Europe circule l'idée lancée par Sainte Brigitte de Suède, d'une adoption d'Édouard III par le roi de France, qui en ferait son successeur et mettrait fin au conflit avec l'Angleterre, 20. Le duc de Normandie, se sentant menacé, cherche l'appui de son beau-frère, le très puissant Charles de Luxembourg, le futur empereur. Le 7 mai 1347, celui-ci s'engage par serment à venir à son secours, et à celui de ses quatre fils, aucun nom l'empêcherait de succéder à la couronne de France, 19. Premier contact avec le pouvoir modifié. En 1347, après la chute de Calais, Philippe VI, âgé, 53 ans, et discrédité, doit céder à la pression. C'est le duc de Normandie qui prend les choses en main. Ses alliés, les Melun et les membres de la bourgeoise d'affaires, qui viennent d'être victimes de la purge qui a suivi Crécy et qu'il fait réhabiliter, entre au conseil du roi, à la chambre des comptes, 21 et occupe des postes élevés dans l'administration. L'attraction politique de la France, permet d'étendre le royaume vers l'est en dépit des défaites militaires. Ainsi, le comte Humbert de ruiné par son incapacité à lever l'impôt, 22 et sans héritier après la mort de son fils unique, vend le Dauphiné, 23 à Philippe VI. Jean prend part directement aux négociations et finalise l'accord. Bonne de Luxembourg meurt de la peste en 1349, et Philippe VI réalise une nouvelle manœuvre diplomatique, qui accroît ses possessions vers l'est. Jean épouse en seconde noces, le 19 février 1350 à Nanterre, la comtesse Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, fille de Guillaume d'Auvergne et de Marguerite d'Évreux, veuve âgée de 24 ans. Elle est héritière du duché de Bourgogne, qui, après son décès, serait rattachée à la couronne. Déjà comtesse de Boulogne et d'Auvergne, depuis la mort de son père, elle est à la tête du duché et du comté de Bourgogne, ainsi que de l'Artois après la disparition de son mari, Philippe de Bourgogne, en 1346, et de son beau-père. En contrepartie de ses terres appartenant à son domaine, elle reçoit les seigneuries de Montargis, Lory, Vitry-aux-Loges, Bois-Commun, Châteauneuf-sur-Loire, Corbeil, Fontainebleau, Melun et Montreuil 24. Prise de pouvoir modifiée. La guerre de Cent Ans connaît une période de trêve depuis la Grande Peste de 1349. La première partie de la guerre a tourné largement à l'avantage des Anglais. Édouard III remporte des victoires écrasantes aux batailles de l'Écluse et Crécy et prend Calais. Le pouvoir des Valois est largement contesté. Édouard III et Charles II de Navarre, tous deux descendants de Philippe le Bel par les femmes, revendiquent la couronne. Jean le Bon les prend de court par son couronnement très rapide, le 26 septembre 1350, après la mort de Philippe VI, le 22 août 1350. Le 29 août, au large de Winchalsea, une escadre conduite par Charles de la Cerda, intercepte Édouard III suspecté de vouloir se rendre à Reims pour se faire sacré roi de France. La bataille navale tourne à l'avantage de l'Anglais, au prix de lourdes pertes et ce dernier, ne peut plus s'opposer au sacre de Jean le Bon, 25. Il est sacré, en compagnie de sa deuxième épouse Jeanne d'Auvergne, à Reims, le 26 septembre 1350, par l'archevêque Jean II de Vienne. Son intronisation est suivie par celle de 400 nouveaux chevaliers appartenant aux grandes familles du royaume. Jean le Bon choisit pour emblème l'aigle, qui est celui de son saint patron Jean l'Évangéliste, 26. Charles II de Navarre, dont la mère Jeanne a renoncé en 1328 à la couronne de France contre celle de Navarre, elle est née d'une puissante lignée, et s'est regroupée autour de lui les mécontents des règnes des premiers Valois. Il est soutenu par ses proches et leurs alliés, la famille des comtes de Boulogne, le comte, le cardinal, leurs deux frères et leurs parentés d'Auvergne, qui en 1350 se voient évincés de la gestion de la Bourgogne par le mariage de leur sœur avec le roi Jean le Bon, 24, les barons champenois fidèles à Jeanne de Navarre, la mère de Charles et dernière comtesse de Champagne, 27 et les fidèles de Robert d'Artois, chassés du royaume par Philippe VI. Il est soutenu par la puissante université de Paris, et les marchands du nord-ouest du royaume, pour lesquels le commerce transmanche est vital, 28. L'exécution du comte de Guine modifiée. Le 19 novembre 1350, Jean le Bon fait exécuter le connétable Ram de Brienne, comte de Guine, alors que celui-ci rentre de sa captivité anglaise, 29. Les causes de son exécution sont restées secrètes mais il aurait été convaincu de haute trahison. En effet, le domaine de ce gentilhomme est partagé entre plusieurs royaumes, France, Angleterre et Irlande, 30. Et, comme beaucoup de seigneurs dont les possessions ont une façade maritime à l'ouest, sauf ceux dont les domaines sont dans le bassin de la Seine, et qui peuvent facilement commercer avec Paris, il a intérêt à soutenir l'Angleterre pour des raisons économiques, le transport maritime étant à l'époque plus performant que le transport terrestre, la Manche constitue une intense zone d'échange, 31. Il aurait négocié sa libération contre l'engagement de reconnaître Édouard III comme roi de France, ce dont Jean le Bon aurait eu connaissance par l'interception de courriers à destination du souverain anglais. 32. Le roi ne souhaite pas que cela s'ébrouille car cela remettrait en avant la question des droits d'Édouard à la couronne de France. 32. En 24 heures, Harald de Brienne est arrêté, jugé à huis clos, décapité et ses biens confisqués. 32. L'opacité sur les raisons de cette exécution expéditive laisse place aux rumeurs. Il se dit que le connétable a été exécuté pour avoir entretenu une liaison supposée avec feu la reine bonne de Luxembourg. Ces rumeurs permettent de plus de jeter le discrédit sur les futurs Valois en instillant un doute sur leur hérédité et donc leur légitimité. 33. L'émotion est vive, Harald de Brienne a de nombreux soutiens, qui se rangent alors dans le camp navarrais. 34. Les seigneurs normands et la noblesse du Nord-Ouest, de Picardie, d'Artois, du Vermandois, du Beauvaisis et des Flandres, dont l'économie dépend des importations de laine anglaise, susceptibles de se ranger aux côtés de l'anglais. Se sentent menacés et se rangent derrière Charles de Navarre ou les frères de Piquigny, fidèles alliés du connétable. 27. Au lendemain du meurtre du connétable, Charles le Mauvais écrit au duc de Lancastre, « Tous les nobles de Normandie sont passés avec moi à Moravie. » 27. Première mesure modifiée. Ordonnance sur les métiers de la ville de Paris modifiée. Les effets démographiques de la grand peste entraînent une raréfaction de la main-d'œuvre et des produits agricoles. Pour éviter une inflation dont les effets sont très mal perçus à l'époque, le roi bloque prix et salaire par ordonnance du 30 janvier 1351 à l'instar de ce qu'a fait Édouard III, avec le statut des travailleurs en 1349. 35. L'ordonnance interdit aussi la mendicité car l'inactivité aggrave la pénurie de main-d'œuvre, et les vagabonds peuvent être recrutés dans les bandes de mercenaires non soldés, qui déjà sévissent dans le pays. 35. Enfin, chacun peut s'établir comme artisan dans Paris, ce qui brise le système des corporations, et contribue à empêcher la hausse des prix. Les corporations fixent l'autorisation d'exercice et les prix pratiqués. 35. Dès lors, cette mesure permet de limiter l'inflation dans un premier temps, mais n'empêche pas à moyen terme, le marché de réguler les prix en fonction de l'offre et de la demande. On sait qu'en Angleterre, après promulgation d'une ordonnance analogue, les prix ont recommencé à augmenter après une génération. 36. Réorganisation de l'armée modifiée. Le roi a le souci de réorganiser l'armée qui a été vaincue à Crécy. Pour restaurer le prestige et l'autorité des Valois, il faut que l'argent concédé par les impôts serve à financer une armée valeureuse et efficace. En particulier, il faut éviter les défections sur le champ de bataille, et les pillages une fois la paix revenue. Création de l'ordre de l'étoile modifiée. L'ordre de la jarretière, créé par Édouard III, risque d'attirer nombre de chevaliers car, à l'époque, après des générations d'alliances matrimoniales, les domaines seigneuriaux sont fréquemment éparés dépendant de plusieurs royaumes. 37. Les seigneurs de l'ouest de la France pourraient suivre la logique économique, qui fait de la Manche une grande zone d'échange, et basculer dans le camp anglais. Jean le Bon crée donc l'ordre de l'étoile. La féodalité est en crise au XIVe siècle, et la noblesse est confrontée à une importante baisse de ses revenus fonciers suite aux nombreuses dévaluations, alors que le sang est à montant fixe. Or, l'appartenance même à la noblesse se définit par une conduite honorable et dispendieuse. Vivant du labeur paysan, le maître se doit de manifester sa largesse en entretenant la masse de ses dépendants. 38. Des membres désargentés de la noblesse pourraient donc changer de camp si Édouard III leur proposait une rente. Une solde est donc versée aux chevaliers membres de l'ordre de l'Accentégutté. Voilà. Ces règles flattent l'idéal chevaleresque, le siège est placé à Saint-Ouen près de Saint-Denis, l'abbaye où sont conservés les tombeaux des rois, et les insignes de la royauté. Les membres se reconnaissent à un collier, et une étoile blanche sur émail rouge avec cette devise, Monstrum Regibus Traviam. Il s'agit également de substituer des valeurs de discipline militaire à l'esprit de prouesse, qui est dans une large mesure à l'origine du désastre de Crécy. 39. On substitue au simple orgueil, même valeureux, le sentiment de l'honneur. Le mérite personnel y représente, avant la naissance et la fortune, la première condition pour être admis. Les succès dans les tournois ne comptent pas, mais la valeur et la fidélité sur le champ de bataille. C'est une chevalerie d'État où le chevalier promet loyal conseil au prince soit d'armes, soit d'autre chose. 40. Les statuts stipulent que ses membres ne doivent jamais tourner le dos à l'ennemi et, à la première réunion de l'ordre, ils jurent de ne pas reculer plus de 4 pas. D'un point de vue tactique, ces mesures sont censées donner plus de cohésion à un host qui s'est débandé à Crécy, mais dans les faits une unité qui ne recule pas, quand elle est mise en difficulté, se retrouve encerclée et risque d'être perdue. C'est ainsi que lors de la bataille de Poitiers, ces dispositions provoquent la mort ou la capture de plusieurs membres, dont le grand maître, le roi en personne. L'ordre tombe ainsi rapidement en désuétude. Règlement pour l'agent de guerre modifié. Jean II souhaite encadrer au service de l'État l'immense fourmillement des hommes de guerre soldés. Le pays abonde en gens de guerre, mais pas forcément bien équipés ni disciplinés. Ils peuvent fuir le champ de bataille, ou se transformer en pillards pendant les périodes de trêve. D'autre part, les impôts étant difficiles à faire rentrer, il convient d'éviter les gaspillages. Il est courant que des hommes se présentent dans plusieurs compagnies en se prêtant mutuellement leurs équipements pour recevoir plusieurs soldes. Le 30 avril 1351, une nouvelle ordonnance augmente les soldes contre l'institution de revue, la montre, contrôlant les troupes. Chaque combattant doit faire partie d'une compagnie sous l'ordre d'un capitaine. 41. Les chevaux sont marqués pour éviter que les mêmes montures puissent être montrées dans deux unités différentes. Les soldes sont donc versés à vue à l'issue de la montre, ce qui permet de solder une seule fois les combattants et seulement s'ils sont correctement équipés. 42. Cette ordonnance crée une véritable armée royale en lieu et place des troupes seigneuriales, peu disciplinées. 42. Les barons, vassaux et arrière-vassaux sont logés à la même enseigne et intégrés dans des compagnies. Les capitaines de ces unités sont responsables de la tenue et de la disponibilité de leurs troupes, et doivent rendre des comptes aux connétables et aux maréchaux. 42. Cette ordonnance, qui est un complément à la création de l'ordre de l'Étoile, prévoit, pour le haut commandement, des conseillers techniques dans l'emploi des armes, assistant les princes et les chefs. 40. Suspension de la dette du roi modifiée. Au prétexte de constituer un trésor de guerre en cas de reprise des hostilités, Jean le Bon suspend la dette durant la trêve, du 11 septembre 1351 au 12 septembre 1352. 43. Il est habituel à cette époque d'emprunter à de riches créanciers, qui se remboursent en prélevant des taxes au nom du roi, ce qui allège d'autant le nombre de fonctionnaires nécessaires pour la marche de l'État. 44. Ces créanciers étant ainsi fort impopulaires, la mesure est très bien accueillie. En revanche, elle met en lumière le besoin de réformer l'impôt, et on ressort du trésor des chartes, la grande ordonnance de réforme de 1303. 43. Conflit avec Charles de Navarre modifié. L'assassinat de Charles de la Cerda modifié. Le parti du roi modifié. Les proches du roi ont la réalité du pouvoir entre les mains au détriment du parti navarrais. Le parti royal est structuré autour des Melun Tancarville. Jean vicomte de Melun a épousé Jeanne seule héritière du comté de Tancarville, qui est à la tête de l'un des deux grands partis normands. 45. Ses frères Guillaume l'archevêque de Sens, et Adam qui récupère la charge de chambellan de Normandie habituellement donnée au Tancarville. Jean le Bon ramène dans ce parti, les fils de Robert d'Artois en donnant en 1350 à Jean d'Artois, le comté du 46 qu'il vient de récupérer en faisant exécuter le connétable Ral de Brienne. 32. Les Artois entrent de plein pied dans le clan des Melun-Tancarville, quand il épouse Isabelle de Melun, fille de Jean de Melun. Il est soutenu par ses cousins Bourbon. Mais l'incarnation de son parti est son favori Charles de la Cerda, celui-ci est le beau-fils du vicomte Jean de Melun, qui s'est remarié avec sa mère. Charles de la Cerda peut compter sur le soutien de la comtesse d'Alençon, Marie de la Cerda. 47, sa cousine, veuve des comtes Charles d'Étampes et Charles II d'Alençon. 48. En 1352, il épouse Marguerite de Blois, fille de Charles de Blois, le candidat à la succession de Bretagne soutenu par le roi de France, ce qui lui vaut le soutien de seigneurs bretons tels que Bertrand du Guesclin. Il a ses fidèles dans l'armée royale, comme le maréchal Arnould d'Audrem. Charles de la Cerda joue un jeu habile, attire à lui des membres de famille liés depuis des années aux Évreux navarres pour affaiblir l'influence du puissant parti navarrais qui menace le roi. 48. La rivalité entre Charles de Navarre et Charles de la Cerda modifiée. Charles de la Cerda accumule les honneurs. Jean le Bon lui confie mission diplomatique et commandement militaire ou maritime. Il reçoit du roi le comté Angoulême en décembre 1350 et la charge de connétable en 1351. Après la mort de Philippe VI, la trêve signée en 1347 n'est plus valable. Charles de la Cerda s'illustre par une brillante campagne en Poitou où il prend Saint-Jean d'Angély le 11 août 1351. 35. Jean le Bon, essayant de se concilier les bonnes grâces de Charles de Navarre, le nomme lieutenant du Languedoc. Le Navarrais s'acquitte bien de ses fonctions civiles, mais il échoue à reprendre la place de Montréal près d'Agen. 49. En 1352, le roi lui donne sa fille Jeanne en mariage avec une dot de 100 000 écus, il doit recourir à une mutation monétaire pour la réunir. 49. Mais bien que gendre du roi, Charles de Navarre reste soigneusement tenu à l'écart du conseil du roi, alors que Charles de la Cerda s'active à détricoter son réseau de fidèles. Tout cela ne peut qu'en faire l'ennemi mortel du parti navarrais, qui répand des rumeurs calomnieuses d'homosexualité pour expliquer ses liens avec le roi. C'est l'affaire du comté d'Angoulême qui met le feu aux poudres, par un accord entre le roi de France et Jeanne de Navarre, cette dernière a cédé ce comté contre les châtellenies de Beaumont, Asmières-sur-Oise et Pontoise. Ces châtellenies n'ayant jamais été remises, le comté aurait dû revenir à Charles de Navarre, mais il échoua à Charles de la Cerda. 50. La tension montée au printemps 1353, une empoignade oppose Philippe de Navarre, le frère de Charles le Mauvais, et le connétable, dans les appartements du roi. Ce dernier ramène Phil. Hugues de Navarre a la raison alors qu'il a dégainé sa dague, et Charles de la Cerda quitte les lieux sous les insultes du Navarrais. 51. Négociation de paix modifiée. sous la pression du pape Innocent VI, anglais, français et breton négocient la paix dans la guerre de Cent Ans, et dans la guerre de succession de Bretagne. Le conflit breton est en effet dans une phase de statu quo, Jean de Montfort soutenu par les Anglais, est mort et son fils n'a que 4 ans. Charles de Blois, soutenu par les Français, est prisonnier à Londres et négocie sa rançon. Édouard III obtient, par le traité de Westminster du 1er mars 1353, qu'en contrepartie de la reconnaissance de Charles de Blois comme duc de Bretagne, ce dernier s'engage à verser une rançon de 300 000 écus, et à ce que la Bretagne signe un traité d'alliance perpétuelle avec l'Angleterre. Cette alliance doit être scellée par le mariage de Jean, le fils de Jean de Montfort, avec la fille d'Édouard III, Marie, 52. Les époux étant cousins, le mariage nécessite des lettres de dispense canoniques, que le pape n'accorderait qu'avec l'approbation du roi de France. Or, Charles de la Cerda s'est marié en mars 1352 avec Marguerite de Blois, la fille de Charles de Blois. Très proche du roi de France, il a son mot à dire dans cette négociation, et fait partie des plénipotentiaires, 52. En revanche, Charles le Mauvais est soigneusement tenu à l'écart des négociations. Une paix franco-anglaise nuirait à ses intérêts car, sans la menace d'une alliance anglo-navarraise, il n'a aucune chance de faire valoir ses prétentions sur la Champagne, et a fortiori sur la couronne de France. Or, début janvier 1354, au moment où Charles de la Cerda part pour la Normandie, le roi a donné son accord au mariage, 53. Dès lors, Charles le Mauvais décide de faire échouer les négociations, et de se saisir de la personne de Charles de la Cerda, dans le but d'influer sur le cours des tractations. Il passe à l'action et fait assassiner Charles de la Cerda, le 8 janvier 1354, à l'Aigle. Traité de Mantes modifié. Charles de Navarre souhaitait la capture du connétable et non son assassinat. Il en endosse la responsabilité pour couvrir son ombrageux et impulsif frère Philippe de Navarre qui fut l'exécutant. Alors que Jean le Bon reste prostré 4 jours à l'annonce de la mort de Charles de la Cerda, montrant qu'il ne peut maîtriser son émotion, le Navarrais se pose en chef d'État, et revendique pleinement le meurtre qu'il justifie comme une question d'honneur, 54. Charles de Navarre est fortement soutenu, et les seigneurs normands se rangent derrière lui. Les châteaux normands sont réarmés. Il envoie Jean de Fricamp, surnommé Friquet, emprunter de l'argent à Bruges pour lever une armée, 54. Dès le 10 juillet 1354, la chancellerie navarraise envoie des courriers demandant une aide militaire à Édouard III, au prince noir, à la reine Philippa de Hainaut, et à Jean de Gand, duc de Lancastre, 54. Allié aux Anglais, il a les moyens de contraindre le roi de France à accepter l'assassinat de son favori. Le 22 février 1354, Jean le Bon doit accepter des concessions au traité de Mantes pour éviter une reprise de la guerre de Cent Ans. Par ce traité, Charles le Mauvais renonce à réclamer les châtellenies d'Assenières-sur-Oise, Pontoise et Beaumont que le roi ne lui avait toujours pas remises. En contrepartie, il reçoit le comté de Beaumont-le-Roger, les châteaux de Breteuil, Conché de Pontaud-de-Mer, le clos du Cotentin avec la ville de Cherbourg, les vicomtés de Carentan, Coutan, et Valognes en Normandie. Il peut recevoir l'hommage des seigneurs normands qui l'ont soutenu. Ce traité lui donne également la permission de tenir chaque année un échiquier pour y rendre justice, sans que des appels puissent être envoyés au Parlement de Paris, 55. Au total, il reçoit toutes les prérogatives du duc de Normandie sans en avoir le titre. D'autre part, l'assassinat de Charles de la Cerda a compromis les accords de paix franco-anglais, ni la guerre de Cent Ans, ni la guerre de succession de Bretagne ne sont réglés. Pour faire bonne figure, il doit demander pardon au roi devant son lit de justice le 4 mars, mais ne subit aucun autre châtiment. Charles le Mauvais est en position de force, il n'a jamais été aussi puissant. Négociation à Avignon modifiée. En novembre 1354, Charles le Mauvais est convié par le pape aux négociations de paix d'Avignon. Pour lui, un traité de paix franco-anglais serait une catastrophe, surtout si Édouard III acceptait de renoncer à la couronne. Il conclut donc avec le duc de Lancastre, un pacte qui prévoit le démembrement de la France. Édouard recevrait la couronne de France, mais laisserait à son cousin Charles de Navarre la Normandie, la Champagne, la Brie, le Languedoc et quelques autres fiefs, 56. Un débarquement anglais est prévu pour la fin de la trêve qui expire le 24 juin 1355, 57. Mais les Anglais, échaudés par les revirements incessants du Navarrais, se méfient et le débarquement promis n'eut jamais lieu. États généraux de 1355 et 1356 modifiés. La création d'une armée soldée est coûteuse et doit être financée. Le roi recourt aux États généraux, qu'il convoque le 8 mai 1355. On tente de simplifier le calcul de l'impôt pour le rendre plus efficace, 58. Mais les impôts ne rentrent pas et le roi a recours une nouvelle fois aux manipulateurs de la monnaie au nom. Il rappelle Jean-Paul Vivien et Nicolas Braque, qu'il nomme respectivement au comté aux monnaies, 58. La monnaie est dévaluée une nouvelle fois. Les rentes et loyers diminuent aux grandes dames de la bourgeoisie, de la noblesse et des prélats, 58, la grogne monte. Après avoir su mater d'une main de fer, une rébellion dans son comté anglais de Chester, Édouard de Woodstock, dit le prince noir, fils aîné d'Édouard III, est gratifié de la confiance de son père qui lui confie le poste de lieutenant de Gascogne. Ainsi commence la première chevauchée du célèbre capitaine anglais. Avec l'échec des négociations d'Avignon, la trêve prend fin et en 1355, le prince noir, parti de Bordeaux, pille la campagne française dans les comtés de Juliac, d'Armagnac et d'Astarac. Ses troupes commettent de nombreuses atrocités dans la région de Carcassonne. Confronté à la menace anglaise, Jean le Bon convoque les états généraux de Languedoc-Trémel à Paris, dans la grande salle du palais de la cité, le 2 décembre 1355, pour lever l'armée de 30 000 hommes qu'il juge nécessaire. Étienne Marcel et ses alliés, son cousin Humbert de Lyon, son associé Jean de Saint-Benoît, son prédécesseur à la prévôté des marchands de Paris Jean de Passy, ainsi que ses échevins Pierre Bourdon, Bernard Quecatrix, Charles Thau, Ussac et Jean Belot, y sont les principaux représentants des villes, 59. Les États sont extrêmement méfiants quant à la gestion des finances publiques, et chaudés par les dévaluations entraînées par les mutations monétaires, 60 qui ont fait perdre à la monnaie royale 82% de sa valeur en un an, 61. La noblesse dont les dévaluations diminuent les revenus, des redevances dues sur leurs terres sont de montants fixes, a un besoin impératif d'une monnaie forte. Les commerçants ont surtout besoin d'une monnaie stable. Après les chevauchées du prince noir en Languedoc, et du duc de Lancastre en Artois, les États ont conscience de la nécessité de lever une armée, mais plus encore de financer des garnisons pour défendre les villes, 59. Ils acceptent la levée d'une taxe sur les transactions commerciales de 8 deniers par livre, à la condition de pouvoir en contrôler la mise en œuvre, et l'utilisation des fonds prélevés, et que soit émise une monnaie forte, 59. Un collège de 9 officiers, 3 par ordre, qui prélèverait la taxe, doit être désigné par les États généraux, 62. Les impôts rentrant mal et la nouvelle monnaie se dévaluant rapidement, les États sont réunis à nouveau en mars 1356, et décident d'élargir l'assiette de l'impôt en taxant aussi les revenus fonciers. Ce qui se révèle difficile car il faudrait une administration capable de quantifier les revenus des contribuables, 63. La fuite du dauphin modifiée. L'empereur Charles IV, subissant une offensive diplomatique de la part des Anglais, et inquiété par l'influence grandissante des Français sur l'ouest de l'Empire, la Bourgogne, le Dauphiné et de nombreuses places fortes, sont contrôlées par les Français, menace de renégocier son alliance avec son beau-frère Jean le Bon. L'empereur émancipe le quatrième fils du roi, Philippe, dont le duché de Bourgogne est géré par le roi de France du fait de son jeune âge, 64. Le roi fait montre d'intransigeance et la tension monte. Le dauphin Charles, très proche de son oncle, craint d'y perdre le Dauphiné, et s'oppose à la façon de procéder de son père. Monté contre lui par Robert Lecoq, l'un des plus fervents avarais jouant double jeu auprès de Jean le Bon, qui ne cesse de lui confier que son père cherche à l'évincer du pouvoir. Il organise avec le concours des Navarrais, une fugue visant à rencontrer l'empereur, lui prêter l'hommage et apaiser les tensions, 65. Elle doit avoir lieu en décembre 1355. Le roi, mis au courant du complot par Robert de Lory, convoque son fils et lui confie la Normandie en apanage pour le rassurer sur ses sentiments envers lui, 66. Arrestation de Charles de Navarre modifiée. Jean le Bon est averti du complot de partage du pays, ourdi par Charles le Mauvais et les Anglais à Avignon, 67, ainsi que d'un projet d'assassinat le concernant, ce grief est plus tard avoué par les proches de Charles de Navarre soumis à la question, ce qui rend les aveux peu fiables, et se décide à le mettre hors d'état de nuire. Le 5 avril 1356, le dauphin et duc de Normandie, a convié en son château de Rouen, toute la noblesse de la province, à commencer par le comte d'Evreux, Charles le Mauvais. La fête bat son plein lorsque surgit Jean le Bon, coiffé d'un bassinet et l'épée à la main, qui vient se saisir de Charles le Mauvais en hurlant, que nul ne bouge s'il ne veut être mort de cette épée, 68. À ses côtés, son frère Philippe d'Orléans, son fils cadet Louis d'Anjou et ses cousins d'Artois forment une escorte menaçante. À l'extérieur, une centaine de cavaliers en armes tiennent le château, 68. Jean le Bon se dirige vers la table d'honneur, agrippe le roi de Navarre par le cou et l'arrache violemment. De son siège en hurlant, traître, tu n'es pas digne de t'asseoir à la table de mon fils. Colin Doublet, écuyer de Charles le Mauvais, tire alors son couteau pour protéger son maître, et menace le souverain. Il est aussitôt appréhendé par l'escorte royale, qui s'empare également du Navarrais, 68. Excédé par les complots de son cousin avec les Anglais, le roi laisse éclater sa colère qui couve depuis la mort, en janvier 1354, de son favori le connétable Charles de la Cerda. Malgré les supplications de son fils qui, à genoux, implore de ne point le déshonorer ainsi, le roi se tourne vers Jean d'Harcourt, infatigable défenseur des libertés provinciales, mais qui a été mêlé à l'assassinat de Charles de la Cerda. Il lui assène un violent coup de masse d'armes sur l'épaule avant d'ordonner son arrestation. Le soir même, le comte d'Harcourt et trois de ses compagnons, dont l'écuyer Doublet, sont conduits au lieu-dit du champ du pardon. en présence du roi, le bourreau, un criminel libéré pour la circonstance qui gagne ainsi sa grâce, leur tranche la tête. 68. Bataille et chevauchée sous Jean le Bon. Principale bataille de la première phase de la guerre. Possession de Charles de Navarre, chevauchée du prince Noir en Languedoc en 1355, chevauchée de Lancastre en 1356, itinéraire du prince Noir en 1356, chevauchée des Douars 3 en 1359. 60. Bataille et chevauchée sous Jean le Bon. Principale bataille de la première phase de la guerre. Possession de Charles de Navarre, chevauchée du prince Noir en Languedoc en 1355, chevauchée de Lancastre en 1356, itinéraire du prince Noir en 1356, chevauchée des Douars 3 en 1359. 60. Deux jours plus tard, la troupe regagne Paris pour célébrer la fête de Pâques. Charles le Mauvais est emprisonné au Louvre, puis au Châtelet. Mais la capitale n'est pas sûre, aussi est-il finalement transféré à la forteresse d'Arleux, près de Douai en terre d'Empire. 69. Incarcéré, Navarre gagne en popularité. Ses partisans le plaignent et réclament sa liberté. La Normandie gronde et nombreux, sont les barons qui renient le mage prêté au roi de France, et se tournent vers Édouard III d'Angleterre. Pour eux, Jean le Bon a outrepassé ses droits en arrêtant un prince avec qui il a pourtant signé la paix. Pire encore, ce geste est perçu par les Navarrais comme le fait d'un roi qui se sait légitime, et espère éliminer un adversaire, dont le seul tort est de défendre ses droits à la couronne de France. Philippe de Navarre, le frère de Charles le Mauvais, envoie son défi au roi de France, le 28 mai 1356. 69. Les Navarrais et particulièrement les seigneurs normands passent en bloc du côté des Douars III qui, dès le mois de juin, lancent ses troupes dans de redoutables chevauchées, en Normandie et en Languedoc. 70. Guerre contre les Anglais modifiée. La bataille de Poitiers modifiée. Article détaillé, bataille de Poitiers, 1356, et Arclamb anglais. L'été de l'année suivante, le prince Noir revient sur le sol français pour une nouvelle campagne de pillage. Il échoue devant Bourges, mais prend Vierzon dont la garnison est massacrée. Gêné par le poids du butin, sa troupe oblique alors vers l'ouest, puis vers Bordeaux en passant par Poitiers. Jean le Bon la poursuit avec une armée deux fois plus nombreuse, composée de chevaliers lourds, et le rattrape dans les environs de Poitiers. La bataille a lieu le 19 septembre 1356. L'enjeu est plus que militaire. Il faut redorer le blason de la noblesse, largement terni depuis le désastre de Crécy, et qui de plus est incapable de protéger le peuple des pillages anglais, ce qui est pourtant son rôle dans la société féodale. C'est dans cet esprit qu'il renvoie les troupes envoyées par les villes pour le soutenir. C'est au roi et à la noblesse de vaincre pour prouver leur légitimité. Avant que la bataille se déclenche, le cardinal de Talleyrand Périgord, légat du pape Innocent IV, tente une médiation et obtient une trêve de 24 heures. Ce délai est mis à profit par les Anglais qui peuvent se retrancher, leur stratégie habituelle étant d'obliger l'adversaire à attaquer par l'usage de l'arc long, dont la cadence de tir surclasse largement celle des arbalètes. Au petit matin, un mouvement des Anglais laisse penser qu'ils tentent de passer leur butin de l'autre côté du Mieux au gué de l'homme. Les deux commandants de l'avant-garde française interprètent différemment ce mouvement, le maréchal Jean de Clermont appréhende un piège, alors que le maréchal Arnould de Drême estime qu'il faut tout de suite occuper les passages. Le temps monte, ils se défilent, sans prendre les ordres du roi, cherchent chacun de leur côté. La charge d'Audrême sur un chemin bordé de haies, maupertuis, un mauvais passage, est anéantie par les archers gallois masqués derrière les buissons. Le connétable Gauthier VI de Brienne se joint au maréchal de Clermont pour charger sur le comte de Salisbury. Tous deux sont tués. L'avant-garde est décimée. Les deux corps de bataille s'engagent ensuite de façon désordonnée, désordre accentué par les pièges préparés par les Anglais. La bataille tourne à l'avantage du prince Noir. 71. Une partie de l'armée française, devant la confusion de la bataille, perd confiance et tourne casaque. Les chevaux, non protégés, sont vulnérables aux tirs des archers anglais. Le roi fait mettre pied à terre et monte à l'assaut avec ses hommes après avoir mis à l'abri ses fils Charles et Louis, ne gardant avec lui que le plus jeune, Philippe, qui n'a 14 ans et qui gagne à Poitiers son surnom de le Hardy. 71. La cavalerie anglaise charge, les chevaliers français démontés et s'assurent la victoire. Le roi se bat héroïquement. Les cris de son jeune fils sont restés célèbres, « Père, gardez-vous à droite. Gardez-vous à gauche. » Blessé à la tête, 72, il est finalement fait prisonnier avec son fils, 73. Édouard III a toutes les cartes en main pour négocier d'importantes concessions territoriales et financières. La captivité modifiée. Le sacrifice du roi sauve sa couronne, car il est perçu comme héroïque dans tout le royaume, y compris par Édouard III et son fils le prince Noir. Jean le Bon est incarcéré à Bordeaux avec tous les honneurs. Il peut librement y organiser une cour. En janvier 1358, Charles de Navarre, libéré, est en mesure de prendre le pouvoir, il est considéré par beaucoup, comme plus apte à combattre l'ennemi anglais, et plus légitime que le chétif dauphin. 74. Voyant la situation évoluer vers une monarchie contrôlée avec Charles de Navarre à sa tête, Jean le Bon décide de précipiter les négociations, quitte à céder beaucoup de terrain à Édouard III. Elles doivent avoir lieu de roi à roi, et il est transféré de Bordeaux à Londres. Ses conditions d'incarcération sont royales, il est logé avec sa cour de plusieurs centaines de personnes, proches capturés avec lui à Poitiers, et d'autres venus de leur plein gré, liberté de circulation en Angleterre, hébergement à l'hôtel de Savoie. Il accepte le premier traité de Londres qui prévoit que l'Angleterre récupère l'ensemble de ses anciennes possessions d'Aquitaine, et une rançon de 4 millions d'écus sans renonciation à la couronne de France, 75. Cet accord provoque un tollé dont Étienne Marcel, le prévôt de Paris, profite pour prendre le pouvoir dans la capitale. Le 22 février 1358, il déclenche une émeute et 3000 hommes en armes envahissent le palais de la cité pour affronter le dauphin, 76 qui a fait monter une armée d'un millier d'hommes pour faire pression sur les Parisiens, et empêcher son éviction en faveur du Navarrais. Étienne Marcel fait assassiner sous ses yeux les chefs de cette armée, le maréchal de Champagne Jean de Conflans, et le maréchal de Normandie Robert de Clermont, 77. Croyant maîtriser le dauphin qu'il a terrorisé, il le fait nommer régent Étienne Charles, le mauvais à l'écart de Paris. Le dauphin réagit, monte la noblesse horrifiée par le meurtre des maréchaux contre Étienne Marcel, et organise le siège de la capitale, 78. Étienne Marcel contre-attaque en utilisant la jacquerie pour s'assurer de l'accès nord à la capitale qui lui permet de garder contact avec les villes des Flandres, et du nord auxquelles il est allié. Charles de Navarre, RRE, se sentant évincé par le prévôt de Paris, reprend l'initiative en prenant la tête de la noblesse et en écrasant les Jacques, 79. Étienne Marcel n'a d'autre choix que de composer avec lui, il lui ouvre les portes de Paris et du pouvoir, 80. Néanmoins, la plus grande partie de la noblesse ne suit pas le Navarre et rallie le camp du dauphin qui assiège Paris. Une alliance avec Étienne Marcel est impossible depuis le meurtre des maréchaux. Charles de Navarre compense ses défections par l'enrôlement de mercenaires anglais, dont la présence dans Paris déclenche des émeutes, 81, la nouvelle de l'arrivée d'autres troupes anglaises, fait définitivement basculer les Parisiens, 82, Étienne Marcel est assassiné, et Paris ouvre ses portes au régent, le 2 août 1358. En mars 1359, profitant que le pouvoir semble échapper complètement à Jean le Bon, Édouard III augmente ses prétentions, et lui impose des conditions de détention moins conciliantes, et obtient un second traité encore plus contraignant. Aux anciennes possessions d'Aquitaine des Plantagenets, s'ajoutent toutes les terres qui ont un jour appartenu à l'Angleterre, le Maine, la Touraine, l'Anjou et la Normandie. Le roi d'Angleterre reçoit l'hommage du duc de Bretagne, réglant ainsi la guerre de succession de Bretagne en faveur de Jean de Montfort, allié des Anglais. La rançon de 4 millions d'écus avec un échéancier plus bref. Cela représente plus de la moitié du territoire, et plusieurs années de recettes fiscales. Accepter ces conditions discréditerait définitivement les Valois, et risquerait de faire sombrer le royaume dans une nouvelle guerre civile, qui offrirait à Édouard III la couronne sur un plateau. Le dauphin Charles convoque les états généraux qui, scandalisés, déclarent le traité ni passable, ni faisable. Cette manœuvre permet de dédouaner son père, et de ressouder le pays contre les Anglais. Édouard III débarque en octobre 1359 pour prendre Reims, la ville du Sacre, et imposer à la chevalerie française, une nouvelle défaite qui achèverait de discréditer le pouvoir. Mais, en accord avec le roi et son entourage londonien, qui ne veulent pas que la mort éventuelle d'Édouard III, sur le champ de bataille déclenche des représailles à leur encontre, Charles lui oppose la tactique de la terre déserte, et mène une guerre d'escarmouches, refusant toute bataille rangée. Cette chevauchée tourne au fiasco pour les Anglais, harcelés, affamés, privés de monture, faute de fourrage. Pendant ce temps, des marins normands mènent un raid sur le port de Winchelsea, mars 1360, déclenchant une panique en Angleterre, 83. Fou de rage, Édouard III remonte vers Paris, son armée commettant alors de nombreuses exactions, il ne s'agit plus de la simple extorsion visant à ravitailler ses hommes, mais de la destruction systématique de toutes les ressources, les pieds de vigne sont arrachés, le bétail abattu et toute âme qui vive massacrée. Les mercenaires se soldant par le pillage, une partie des troupes reste sur la Bourgogne pour la piller pour son propre compte, formant l'embryon de la Grande Compagnie. Ces exactions entraînent un vif ressentiment contre les Anglais. Nombre de ces massacres ont lieu pendant le carême, et la semaine sainte et quand l'armée anglaise est décimée par un violent orage de grêle le lundi 13 avril, nombre de chroniqueurs y voient la main de Dieu, 84. Édouard III se décide alors à négocier. Royaume de France entre 1356 et 1363, jacquerie et compagnie. Possession de Charles de Navarre. Territoire contrôlé par Édouard III, avant le traité de Bretigny chevauché d'Édouard III en 1359-60. Territoire cédé par la France à l'Angleterre par le traité de Bretigny, suit le tracé du premier traité de Londres. Royaume de France entre 1356 et 1363, jacquerie et compagnie. Possession de Charles de Navarre. Territoire contrôlé par Édouard III, avant le traité de Bretigny. Chevauché d'Édouard III en 1359-60. territoire cédé par la France à l'Angleterre par le traité de Bretigny, suit le tracé du premier traité de Londres. Traité de Bretigny modifié. Après le refus du deuxième traité de Londres, les conditions de détention de Jean le Bon deviennent progressivement moins confortables. En janvier 1359, Jean le Bon est assigné à résidence, sous la garde de 69 hommes de garde. Six mois plus tard, le roi est transféré à la sinistre forteresse de Somerton puis, au printemps 1360, à la Tour de Londres, 72. Le danger d'une prise de pouvoir par les Navarrais, ou par les États généraux étant écarté, le roi décide de reprendre les choses en main. Il veut neutraliser au plus vite le dauphin, il craint particulièrement une action d'éclat destinée à assassiner le roi d'Angleterre, et il craint pour sa propre sécurité. Alors qu'Édouard III chevauche en France, les rênes du pays sont reprises par son éminence grise, Guillaume de Melun, qui place le dauphin en résidence surveillée et dirige le Conseil, 85. Le parti royal négocie à la va-vite, sur les bases du premier traité de Londres, alors que l'armée anglaise est en déroute, évitant que ce succès bénéficie au seul dauphin. Par rapport au premier traité de Londres, la rançon est ramenée de 4 à 3 millions d'écus, mais les conditions sont très lourdes, et le traité perçu comme honteux. Le traité met un terme aux 4 années de captivité à Londres de Jean le Bon, mais des otages sont livrés pour garantir le paiement de la rançon, dont le plus important est sans doute, son ambassadeur et conseiller, Bonap IV de Rouget et de Nerval. Édouard III obtient la Guyenne et la Gascogne en toute souveraineté, ainsi que Calais, le Ponceux et le comté de Guînes. Il obtient également le Poitou, dont l'un des fils du roi, Jean, est pourtant comte, le Périgord, le Limousin, l'Angoumois et la Saintonge. Enfin, il devient souverain de toutes les terres du comte d'Armagnac en recevant la Genêt, le Quercy, le Rouergue, la Bigorre et le comté de Gourd. En revanche, Édouard III renonce au duché de Normandie et de Touraine, au comté du Maine et d'Anjou, et à la suzeraineté sur la Bretagne et les Flandres. Il renonce surtout à revendiquer la couronne de France. Ce traité vise à désamorcer tous les griefs qui ont conduit au déclenchement du conflit. La rançon n'est que partiellement versée, et le traité de Bretigny-Calais ne dure pas, mais il permet une trêve de 9 ans pendant la guerre de 100 ans. Retour de Jean le Bon modifié. Mariage d'Isabelle de France avec Jean Galais à Visconti modifié. Le versement de l'immense rançon négocié à Bretigny pose problème, le pays est exsangue. Pour libérer le roi, Édouard III exige un acompte de 600 000 écus, et le roi devrait en verser 400 000 supplémentaires avant un an. Le dauphin n'a réussi à collecter que 400 000 écus au prix d'efforts considérables de la population dans son ensemble. Cependant, Jean le Bon parvient à trouver de l'argent pour le premier versement de sa rançon, il marie sa fille Isabelle, avec Jean Galais à Visconti, le fils de Blanche de Savoie et de Galais à Visconti, qui règne sur la Lombardie avec son frère Barnabé. Son rang est insuffisant pour entrer dans la famille du plus grand roi de la chrétienté, mais Galais a offert 600 000 écus d'or. Le premier acompte doit être versé en juillet, le solde à la célébration du mariage. Pris à la gorge, Jean le Bon accepte la proposition, et peut ainsi être libéré, 86. Réforme monétaire et fiscale modifiée. Prisonnier à Londres, Jean le Bon et ses conseillers constatent les bienfaits d'une monnaie forte. Ils préparent donc les réformes nécessaires et Jean le Bon crée le franc, le 5 décembre 1360, sur le chemin du retour à Paris, 87. Il s'agit d'une monnaie à très forte teneur en or, 3,88 grammes d'or fin, valant une livre et dont le nom indique qu'il ne s'agit pas d'une monnaie au titre des Valets, 88. Il montre le roi chargeant à cheval dans la droite ligne de l'idéal chevaleresque, l'objectif est de restaurer l'autorité royale en mettant fin aux mutations monétaires, qui ont entraîné de nombreuses dévaluations pendant toute la première moitié du XIVe siècle, 89. Une monnaie forte constitue la demande principale des états généraux, illustrée par la théorie élaborée par Nicolas Oresme. À côté des éléments purement économiques, qui conduisent à la décision de la création d'une nouvelle monnaie pour le royaume, le choix de son nom, le franc, est avant tout un geste politique, à usage intérieur, pour répondre aux besoins d'affirmation nationale naissant pendant la guerre de Cent Ans, 90. Il s'agit clairement d'une évocation de l'ascendance, partielle, franque du peuple français, ce terme de franc par ailleurs également employé pour désigner les chevaliers chrétiens partis en croisade, et de la légitimité de son roi, le Rex Francorum, légitimité dont la défense, constitue une des principales préoccupations des Valois. Le roi, même s'il doit ménager les états généraux, qui ont gouverné en 1358, n'entend pas laisser les rênes du pouvoir, et le conseil est tenu par le parti royal, Guillaume de Melun en tête. Il applique donc une politique proche de celle prônée par les états généraux sans toutefois leur rendre de compte, ni au parlement. Après la création du franc, il réduit le nombre de fonctionnaires, et puis remet sous pression le personnel financier qui est très impopulaire, 91. La plupart des proches du dauphin sont évincés et celui-ci retourne gérer son duché de Normandie, 92. Le royaume est saigné pour payer le premier versement de la rançon, tel qu'organisé par le dauphin, et les états généraux avant le retour de Jean le Bon, 93. L'abandon des mutations monétaires prive l'état d'une source importante de revenus. Pour payer la rançon, le Conseil du roi compte sur la fiscalité indirecte. L'ordonnance de Compiègne du 5 décembre 1360 institue une taxe de 5% prélevée sur tous les échanges. 94. Ce choix favorise la noblesse qui n'est pas touchée par cet impôt, et plus généralement les propriétaires fonciers, dont les revenus sont calculés en monnaie de compte. En revanche, le commerce, l'agriculture et l'industrie sont durement pénalisés et l'économie est ralentie par cette mesure. Apanage modifié. La superficie du domaine royal posant des problèmes de gouvernance, Jean le Bon le divise en principautés, qu'il confie à ses fils en apanage. Charles est déjà dépositaire du duché de Normandie. Louis reçoit l'Anjou, Jean le Berry et Philippe la Bourgogne. En décembre 1360, il révoque toutes les aliénations du domaine royal faites depuis Philippe le Bel hormis celles effectuées au bénéfice de ses fils, ce qui permet de rapprocher les apanages de la famille proche du roi. 95. Les compagnies modifiées. L'économie du royaume est alors très entamée par les agissements des compagnies, composées de mercenaires démobilisés par la trêve, qui mettent le royaume en coupe réglée. Souvent anglais ou gascon, ils se réclament du roi d'Angleterre ou de Navarre, contribuant ainsi à ancrer un véritable sentiment d'anglophobie, et à discréditer Charles le Mauvais. Il est vrai qu'anglais et navarrais ont souvent recours à leur service dans la guerre froide, qui les oppose au roi de France, Édouard III, en particulier, n'hésite pas à faire œuvrer ses mercenaires sous les couleurs navarraises. 96. Ainsi, Jean Jouel s'empare, en son nom propre, du donjon de Rolleboise pour le compte d'Édouard III. 97. Partout, ils occupent des places fortes et rançonnent les campagnes. Bloquant les voies de communication, dont ils tirent de nombreux profits, ils pèsent sur les échanges. Beaucoup rançonnent sur les vallées de la Saône et du Rhône, principal axe commercial nord-sud depuis l'installation de la papauté à Avignon. 98. On essaie de les acheter, ils empochent le tribut sans partir. On tente de les emmener combattre à l'extérieur mais ils reviennent. On tente de les utiliser les uns contre les autres. Mais cette stratégie tourne au désastre. Les troupes royales sont écrasées à Brignais, le 6 avril 1362, une partie des compagnies embauchées, ayant quitté le champ de bataille. Il faut encore leur payer la rançon pour Guillaume de Melun pris pendant la bataille. 99. Le roi s'éloigne du pouvoir modifié. Allant de désastre en désastre dans un pays ruiné à feu et à sang, le roi cherche une porte de sortie. Séduit par le projet du roi de Chypre, Pierre Ier de Lusignan, il envisage de reconquérir son honneur en croisade contre les Turcs. Cette croisade, financée par le pape, permettrait d'emmener les compagnies, se battre contre les Turcs et serait financée par les décimes. Le roi est content bien en récupérer une partie pour financer le remboursement de sa rançon sachant qu'Innocent VI est un ancien conseiller de son père Philippe VI, 100. Il reçoit la croix d'outre-mer des mains du nouveau pape Urbain V à Avignon, le 30 mars 1363. 99. Mais le nouveau souverain pontife est très soucieux des finances de l'Église, et impose que les décimes soient prélevées par les évêques, de même ce qui ôte tout espoir de plus-value à Jean le Bon, 101. Son voyage a un autre objectif, marier son fils Philippe le Hardi à Jeanne de Naples. C'est encore un échec, celle-ci préférant épouser le roi Jacques IV de Majorque, 102. Finalement, il repart pour Londres le 3 janvier 1364, pour renégocier le traité de Bretigny pour lequel il a du mal à payer la rançon et la libération des otages. Son fils Louis d'Anjou, lassé d'attendre sa libération, s'est déjà enfui de Londres, 103. Avant de partir, il réunit les états généraux à Amiens fin décembre 1363, et leur fait part de sa décision, 103. Il laisse une situation désastreuse avec un pays ruiné et mis en coupe réglée par les compagnies, mais une bonne partie des décisions, qui vont permettre à Charles V de relever le royaume sont déjà prises. La monnaie est stabilisée, une administration plus efficace via la politique des apanages est mise en place, les impôts sont votés. Il laisse son fils aîné régler la situation, ce qu'il a déjà fait brillamment en 1358. Jean demeure à l'hôtel de Savoie, à Londres, le 8 avril 1364. Son corps est restitué à la France, et il est inhumé dans la basilique Saint-Denis. Sa sépulture, comme celle de tous les autres princes et dignitaires reposant en ce lieu, fut profanée par les révolutionnaires en 1793. Mariage et descendance modifiée. Jean le Bon est marié, à l'âge de 13 ans, à Bonne de Luxembourg le dimanche 26 juillet 1332 à Melun. Ils ont 11 enfants. 1. Blanche, 1336-1336. 2. Charles V, 1337-1380, roi de France de 1364 à 1380. 3. Catherine, 1338-1338. 4. Louis, 1339-1384, duc d'Anjou épouse Marie de Blois-Châtillon, 1345-1404. 5. Jean, 1340-1416, duc de Berry épouse en 1360 Jeanne d'Armagnac, 1387. 6. Philippe le Hardi, 1342-1404, duc de Bourgogne épousant 1369 Marguerite III de Flandre, 1350-1405. 7. Jeanne, 1343-1373, épousant 1352 Charles le Mauvais, roi de Navarre, 1332-1387. 8. Marie, 1344-1404, épouse Robert Ier, duc de Bar. 9. Agnès de Valois, 1345-1349. 10. Marguerite, 1347-1352. 11. Isabelle, 1348-1372, épouse Jean Galea Visconti, 1351-1402, duc de Milan. En pleine épidémie de peste noire, son épouse Bonne de Luxembourg trouve la mort le 3 ou le 11 septembre 1349 à l'abbaye de Maubuisson. Le 9 février 1350, Jean le Bon se remarie au château royal de Saint-Gemme à Feuchtrol avec Jeanne d'Auvermieux, 1326-1361, fille de Guillaume XII comte d'Auvermieux, veuve de Philippe de Bourgogne. Avec Jeanne, il a 1. Blanche, 1350-1350. 2. Catherine, 1352-1352. 3. Un fils, 1354-1354. Précédé par Jean II suivi par Philippe VI, roi de France, 1350-1364. Charles V, I.